J'aimerais lire un texte dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24, nous reviendrons sur cette histoire, elle nous servira de base et nous irons un petit peu plus loin après. L'aventure qui est arrivée aux disciples d'Emmaüs. Alors, c'est pas parce que c'est le week-end de la fondation Emmaüs que j'ai pensé aux disciples d'Emmaüs, mais les disciples d'Emmaüs ont vécu quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui doit nous interpeller. D'ailleurs, ce qu'on a entendu tout à l'heure, au travers des dons spirituels, peut nous aider à mieux saisir encore cette vérité-là. Donc, évangile de Luc, chapitre 24, et à partir du verset 13. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 13. « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié ? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ! » Car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. On va rester sur cette expression et on y reviendra. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, pendant qu'il nous expliquait les Écritures. Je me suis intéressé à cette formule, et on va y venir dans un moment, un peu plus dans le détail, pour comprendre qu'est-ce qu'elle signifie, cette formule. Mais avant cela, je me suis intéressé à l'idée de toutes ces phrases, un peu étonnantes d'ailleurs, que l'on peut citer quelquefois concernant le cœur. Avez-vous réfléchi quelquefois sur ce que ça pouvait signifier quand vous dites de quelqu'un « il n'a pas de cœur » Vous imaginez quelqu'un sans le cœur. À vous, ça ne vous fait rien du tout. Moi, ça m'a surpris quand même. Essayez de représenter quelqu'un. Et c'est vide à l'intérieur. On passe une radio, il n'y a pas de cœur. Il ne peut pas vivre. Pourtant, il y a des tas de gens qui vivent et vous dites bien d'eux, lui, il n'a pas de cœur. C'est bizarre, hein, les expressions qu'on utilise. Il y en a d'autres qui sont pas mal aussi. Il a un cœur de pierre. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Vous l'imaginez, alors c'est du granit, c'est du marbre, selon, c'est bien taillé, ou alors c'est grossi, comme ça, c'est pas très beau, mais Voilà, alors évidemment, il veut faire un régime, il n'y arrive pas parce qu'il a un cœur de pierre. Donc ça pèse un peu plus lourd, forcément, etc. Il a un cœur d'or. Celui-là, si vous le trouvez, gardez-le, mais ne lui ouvrez pas le... Non, ne cherchez pas à transformer cela en pièce sonnante et trébuchante. Mais quand même, c'est surprenant, hein. C'est surprenant, hein. Certains ont cherché la cité d'or, et d'autres ont trouvé celui qui avait un cœur tout en or. Pas mal, intéressant. Il y en a d'autres, ils ont le cœur sur la main. Donc, vous les voyez dans la rue, ils se promènent avec leur cœur. Et ça palpite, hein. Boum, 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 boum. Ouais. J'en ai trouvé un dernier, bon... Il vaut ce qu'il vaut, mais dites-moi, il a le cœur gros. Ça veut dire quoi, il a le cœur gros? Il est triste, hein, il a du chagrin. On le sait, hein. Remarquez, c'est peut-être moins impressionnant que quelqu'un qui aurait le cœur au bord des lèvres. Imaginez, ça va sortir. Il a le cœur au bord des lèvres. On connaît toutes ces expressions. Alors, je me suis intéressé à ces expressions bibliques. Finalement, il y a celle-là. Notre cœur ne brûlait-il pas? Est-il possible aujourd'hui d'avoir un cœur brûlant? Un cœur brûlant, c'est possible, on l'a entendu hein, d'ailleurs tout à l'heure. Ça a été dit, alors je me suis intéressé sur cette expression que l'on trouve dans ce texte. Et les deux disciples d'Emmaüs ont été tous les deux capables d'expérimenter cela. Ils ont vécu ce que ça signifie avoir un cœur qui brûle. Il y a quelquefois des situations, des émotions qui font une réaction physique. Il nous est dit, dans l'Ancien Testament, qu'un homme un petit peu fou, d'ailleurs, la signification de son nom signifiait qu'il était fou, il va mépriser, alors que le roi David vient vers lui pour lui demander un peu de secours. Cet homme, Nabal, qui a de l'argent, qui a des biens, qui peut l'aider, refuse de le faire en disant « Mais David, qui est ce David? C'est certainement un esclave qui fuit loin de son maître, je risque pas de l'aider ». David, fou de colère, arme ses cavaliers pour aller régler son compte à Nabal. Sauf que Abigaïl, l'épouse de Nabal, va freiner l'ardeur de David en disant « Écoute, mon mari est un peu fou. » C'est d'ailleurs la signification de son nom. J'espère que votre petit nom, c'est pas Nabal. Hein. Ouais. Il est fou, c'est la signification de son nom. Mais écoute, si c'est possible encore, pardonne sa folie. Et cette femme est venue avec des masses de figues, avec du pain, avec de l'orge, etc., pour calmer l'ardeur de David. Et David va évidemment ranger son épée et ne va pas mettre à exécution son plan. La réalité, c'est que quand Nabal aura cuvé son vin, il va passer par un moment d'ivresse, son épouse va lui avouer ce qu'elle a fait. Et la Bible dit que quand Nabal a entendu ce que sa femme avait fait derrière son dos, il a reçu un coup mortel et son cœur est devenu comme une pierre. La Bible dit que quelques temps plus tard, il mourra. Ça a été un coup mortel. C'est un ange qui l'a frappé, Dieu l'a frappé, un coup mortel. Alors j'en reviens à ces hommes-là, c'est le chemin inverse qui s'est produit. Parce qu'ils ont été tout heureux. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. Ils ont été joyeux, ils ont été animés d'une allégresse incroyable jusqu'au moment de la croix. Et la croix les a affligés au plus haut point, les a littéralement laissés dans une sidération totale et ils ont été meurtris au-dedans d'eux et ils quittent Jérusalem dans une grande tristesse. Ils quittent Jérusalem dans un grand désarroi. Ils quittent Jérusalem malheureux, tellement malheureux, que Dieu, voyant leur détresse, et Jésus, voyant leur désarroi, va, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il est vivant, va décider de faire route avec eux. C'est quand même assez surprenant ce qui s'est passé, parce que la Bible dit qu'ils vont marcher ensemble, et bizarrement, ils ne le reconnaissent pas. Jésus est le même, sauf qu'il est évidemment ressuscité, il y a des marques dans ses mains, il y a des marques dans ses pieds, d'ailleurs il le dira. Il y a quelques-uns des disciples qui douteront de sa résurrection. Jésus apparaîtra au milieu d'eux et il dira « Mais regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. » Croyant voir un fantôme, donc l'aspect aurait pu changer. Jésus va dire à quelques-uns d'entre eux « Vous n'avez rien à manger ?» Avec un peu de miel, de poisson, il va se nourrir avec eux. Un esprit n'a pas de corps, n'a pas d'estomac, ne peut pas manger. « Regardez, c'est bien moi. » C'est comme un trouble spirituel, si vous voulez. C'est comme une vision qui est troublée. spirituellement parlant, vous avez la bonne personne en face de vous, c'est exactement la même, vous ne la reconnaissez pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Et puis, Jésus fait route avec eux en leur demandant la raison de leur détresse. Vous connaissez le texte, on l'a lu. J'aime beaucoup ce que la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelquefois, nos yeux sont littéralement empêchés de reconnaître Dieu dans nos vies parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne voit pas ce que Dieu fait. Alors on espère toujours que Dieu va faire quelque chose et on méprise ce qu'il fait déjà. On ne voit pas ce qu'il fait et on se lamente de ce qu'il ne fait pas en disant « quand est-ce qu'il fera ?» alors que Dieu ne cesse d'agir. Faut-il vous le rappeler ? Jésus dira « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et jusqu'à preuve du contraire, c'est une vérité. Donc, il est avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, dans le cœur de ces gens-là, pour que, à ce point, ils soient dans la détresse et malheureux ? Jésus fait l'innocent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi. Il les fait parler. Fait du bien de faire parler. Il les fait parler. Et quand ils vont lui dire, mais tu es bien le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé, c'est pas possible. Tu n'as pas BFM TV sur ton application, sur ton smartphone. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. On en parle, on ne cesse d'en parler. Ce qui est arrivé, comment ils ont crucifié celui qui était notre sauveur, notre Messie. Et Jésus savait très bien qu'on allait parler de ça. Alors il va leur montrer que tout devait arriver de la sorte. C'est bizarre, parce qu'il va reprendre les mêmes textes qu'il connaissait. Il va reprendre les mêmes passages dont on s'était certainement abreuvé ou dont on avait cherché de lire entre les lignes afin de comprendre la signification spirituelle. Mais on avait lu, on n'avait pas compris, on lisait, on ne comprenait pas, on voyait le texte, mais il était imperméable. On n'arrivait pas à le percer, on n'arrivait pas à comprendre la signification. Il fallait une révélation, certainement. Il fallait juste que le cœur soit non froid, mais un peu plus bouillant. Juste ça. La Bible dit que Jésus va leur expliquer d'après les Écritures ce qui devait arriver. Et puis, au moment où Jésus leur parle, il se passe quelque chose dans leur cœur, mais c'est curieux, ils ne l'avouent pas. Ils ne le disent pas à Jésus. Quand ils arrivent au village et que Jésus va leur serrer la main ou va leur faire au revoir, parce qu'ils semblent vouloir aller plus loin, ils vont insister pour que Jésus reste avec eux. Mais quelle est la raison de cette insistance ? C'est parce que leur cœur brûle au-dedans d'eux. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit, ce n'est pas parce que c'est l'hospitalité et qui nécessite cela. Non, visiblement, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait ces choses en chemin ? Il me vient à penser que derrière leur motivation de ne pas laisser un homme à la rue, évidemment, il y avait aussi ce désir spirituel. Notre cœur brûle. Et on n'a pas envie qu'il cesse, qu'il s'arrête de brûler. On a envie qu'il continue de brûler. On a besoin qu'il continue de brûler. Alors reste avec nous. Reste avec nous. Un artiste a mis cela en chanson. Reste avec nous, le soir décline. Reste avec nous. Et c'est tellement important, certainement, de réaliser cela. Alors, j'ai presque envie de dire que ces pauvres malheureux vont devenir missionnaires parce que quand Jésus va disparaître, il est bien réel dans leur cœur et ils vont repartir directement à Jérusalem pour annoncer la vérité qu'il était réellement ressuscité. Le fait est qu'ils n'avaient rien compris et la minute avant, ils n'ont rien compris. L'instant d'après, ils ont tout compris. Moi, j'aime ce genre de révélation où l'instant d'avant, on ne comprend rien et l'instant d'après, on comprend tout. Ça veut dire que ce n'est pas simplement parce qu'on a réfléchi uniquement sur la chose, mais c'est parce qu'il y a eu une action du Saint-Esprit. Et plaise à Dieu qu'il y a encore aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, hein, encore maintenant, dans notre vie maintenant, une action de l'Esprit afin de nous expliquer les Écritures. Ce message les a littéralement transformés. La parole qu'ils entendent dans la bouche de Jésus les renouvelle littéralement, vous avez remarqué. Hein. Ils arrivent à la maison, on va se coucher, on verra demain. Mais ils sont tellement en feu qu'ils n'ont même plus envie de dormir. Ils veulent tout de suite retourner à Jérusalem, 11 kilomètres dans l'autre sens. Il a bien fallu peut-être 2h30 de route, hein. Marchant vite quand même, 2h30, 3h. Ils ont couru, si c'était possible, jusqu'à Jérusalem pour annoncer la nouvelle. Jésus a bouleversé leur cœur. Comment est notre cœur aujourd'hui quand on entend l'Écriture ? N'importe quel message, n'importe lequel, que ce soit par un novice, que ce soit par un pasteur très expérimenté, que ce soit par quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vocabulaire, que ce soit par un théologien, quelle est notre réaction à l'Évangile ? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand on entend l'Évangile ? Même quand on lit pour soi la parole, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? Le sens du verbe qui est utilisé, « notre cœur ne brûlait-il pas ?» signifie littéralement que Jésus a mis leur cœur en feu, littéralement en feu. Il les a embrasés. Ça brûlait, littéralement, ça brûlait au-dedans d'eux. C'est comme si quelque chose était consumé par le feu. C'était une ardeur, c'était ardent au-dedans d'eux. Plaise à Dieu, que chacun d'entre nous fasse à la parole. Nous ayons cette réaction intérieure, sans la contrôler d'ailleurs. Si ça vient de Dieu, on n'a pas besoin de contrôler ces choses-là. Mais qu'il y ait de l'ardeur, que notre cœur soit embrasé à chaque fois qu'on écoute la parole. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Peut-être que vous avez vu un jour ou vous avez entendu parler de ce film qui est très vieux. Maintenant, il doit avoir, je pense, une bonne quarantaine d'années. Un film qui a été fait racontant la vie de gangs new-yorkais, La Croix et le Poignard. Il y a eu un livre, il y a eu un film. Alors, l'acteur principal, on s'en amusait d'ailleurs il y a 25-30 ans de ça, c'était le même acteur qui jouait dans une série américaine qui s'appelait Chips. C'était le même qui jouait là-dedans. Et bon, on raconte l'histoire, la rencontre du prédicateur Wilkerson avec Nicky Cruz, et puis la bagarre entre les bandes rivales, et puis cette fameuse grande réunion dans un grand cinéma où les bandes se sont réunies pour s'affronter. Le prédicateur n'est pas trop au courant de ce qui va arriver, mais par contre, lui, il annonce l'Évangile. Et c'est du cinéma, hein. C'est une prédication au cinéma. Donc imaginez, comme tous les acteurs, coupez, c'est pas bon, on refait la scène. Et il recommence à prêcher. Puis au bout d'un moment, non, c'est pas bon, la prise de son est pas bonne, on recommence. Vous imaginez, si là vous me disiez coupez, on reprend depuis le début. Ça me déstabilisait quand même. Hein. Parce qu'on joue pas un jeu, on n'est pas acteur. On est dans le... on prêche. Et là, c'est quand même un film. Mais je vous assure, et je vous le dis très honnêtement, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai entendu cet acteur prêcher ce serment comme un acteur ferait du théâtre, les paroles qu'il prononçait parce que c'était comme une prédication, à chaque fois, ça m'a transpercé le cœur. C'est impressionnant quand même. Et pas que la première fois. Hein. Et pas que la deuxième parce que je n'avais pas tout compris la première fois. Et pas que la huitième, pas que la vingtième. Je le regarde encore aujourd'hui, ça va me faire quelque chose. Parce que c'est un appel au salut, c'est un appel à la foi, c'est un appel à la repentance. Et quand on sait les réactions, tout ce qu'il y a eu derrière, mais ça vous transperce littéralement. Chaque fois, ça a embrasé mon cœur. Ça a allumé un feu dans mon cœur. Et dans le fond, à chaque fois que je peux lire, à chaque fois que je peux entendre la prédication de l'Évangile, ça me fait la même chose. Ça allume un feu. Ça ne souffle pas sur des braises, ça allume un feu encore. Trop de fois aujourd'hui, parce que vous êtes chrétien depuis tellement longtemps, on a l'impression que la parole souffle sur des braises. C'est dommage, parce que les braises, ça ne suffit pas. Les braises, c'est un peu trop éteint. Les braises, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu le feu. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ? Quelle réaction ? Produit la parole, comment est votre cœur face à la parole quand vous l'entendez, quand vous la lisez, quand vous la voyez mise en pratique, quelle est votre réaction ? Mais comment est votre cœur, parce que ça va ensemble, face au péché ? Aujourd'hui, c'est peut-être un de nos plus grands défis, on va y venir en conclusion tout à l'heure, c'est certainement un de nos plus grands défis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est anesthésié de plus en plus. Ça devient compliqué. ça devient compliqué d'être droit, de marcher avec la vérité comme objectif, parce qu'on mélange, on brouille un peu les cartes, on nous dit que le bien est bien, certes, mais que le mal n'est pas si mal que ça, et qu'on peut les faire se rejoindre à un moment donné ou à un autre. Ça devient franchement difficile. Mais quelle réaction avons-nous face au péché ? Dans le Nouveau Testament, un homme de la Bible dira « Mais ayez de l'aversion jusqu'à repousser même la tunique qui a été souillée par la chair. » Même ça, ayez une réaction dedans de vous. Et que Dieu nous garde de ne plus avoir de réaction. Il me semble que le contraire d'un cœur brûlant serait un cœur froid. Froid, pas rafraîchissant, mais froid, hein, comme il est dit dans l'Apocalypse. Et il y en a un dans la Bible qui a eu un jour le cœur froid. Et vous savez pourquoi Jacob a eu un jour le cœur froid ? Parce qu'on lui a dit que son fils, celui qu'il aimait, Joseph, était mort. Et qu'il avait certainement été déchiré par une bête féroce. On avait trempé son sang, son vêtement, tunique de plusieurs couleurs, dans le sang d'un animal que l'on avait tué. Et ses propres frères, demi-frères, avaient ramené la tunique trempée de sang, avaient donné ça au papa sans lui avouer qu'ils avaient vendu leur frère. Et il va vivre avec ce cauchemar pendant 20 ans. Et quand, parce que l'histoire nous dit que Dieu est capable de changer le mal en bien, quand, vers la fin de l'histoire, ses propres frères vont retrouver Joseph à la tête de l'Égypte, en demandant des nouvelles de leur père et en disant « Ramenez votre père ici, parce qu'ici il y a du pain, ici il y a de quoi manger », quand ils vont annoncer à leur père « Ton fils est vivant », la Bible dit que le cœur de Jacob resta froid. Et avec un cœur froid, vous faites rien. Avec un cœur froid, vous ne bougez pas. Avec un cœur froid, vous êtes figé. Avec un cœur froid, il n'y a pas d'avenir. Avec un cœur froid, il n'y a pas de perspective. Avec un cœur froid, il n'y a pas de changement d'attitude. Avec un cœur froid, on attend la mort. On attend la mort. Et la Bible nous montre bien que les frangins, les frères de Joseph, vont devoir s'y prendre avec beaucoup d'ardeur cette fois-ci pour réchauffer le cœur de Jacob. Et ils vont y arriver. En montrant les chars, en montrant toutes les richesses qu'ils avaient ramenées de l'Égypte. Et la Bible dit qu'à un moment donné, c'est l'esprit de Jacob qui s'est réveillé. C'est l'esprit de Jacob qui s'est ranimé. Et la Bible dit que c'est plus Jacob qui parle maintenant, c'est Israël. C'est son nom, le nom que Dieu lui avait donné. C'est assez. Joseph, mon enfant, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Quelque temps plus tôt, il avait dit, en parlant à ses enfants, « Frère de Joseph, vous m'avez entraîné dans le malheur et mes deux pieds vont m'entraîner dans la mort avec la souffrance et les larmes tous les jours. » Et là, ça change littéralement parce qu'il dit « Maintenant, avant que je meure, j'aurai une grande joie, je reverrai Joseph. » Le contraire d'un cœur froid, c'est un cœur bouillant. Alors si votre cœur a été chargé parce qu'il y a de la tristesse, il y a de la souffrance, il y a des déceptions, il y a de l'incrédulité, il y a un sentiment de mort qui arrive, de mort qui approche, ressaisissez-vous. La parole est là pour enflammer à nouveau votre cœur. Laissez la parole vous enflammer. Laissez-la toucher votre cœur encore et que Dieu vous ranime, ranime votre esprit. Les deux disciples d'Emmaüs ont fait la plus belle rencontre que l'on pouvait faire à ce moment-là. Jésus lui-même, vous l'avez rencontré. Savez-vous où il est maintenant ? Si vous l'avez perdu de vue, allez à sa rencontre à nouveau. Laissez-le venir vous approcher et laissez-le par sa parole embraser, mettre le feu encore dans votre cœur, mettre en feu votre vie et que vous puissiez ainsi le bénir et le louer. Amen. Maintenant, si le cœur n'est pas brûlant, il peut être tourmenté, hein. Et Lot a vécu une expérience terrible. Alors qu'il fera un choix, on en a parlé la semaine dernière, qui n'était pas forcément le meilleur, il va, suite à cette décision, vivre aux portes des villes de Sodome et Gomorre. Que faut-il dire de ces villes ? Sinon que Dieu va mettre un terme au péché qui est pratiqué dans ces maisons. On parle d'homosexualité, on parle de pédophilie, on parle de toutes sortes de déviations morales, toutes sortes de déviations. Et Dieu va envoyer un jugement terrible. Il va raser de la carte ces deux villes. Sodome et Gomorre vont disparaître. Sauf que, la Bible dit, on trouve cela dans l'épître, la deuxième épître de Pierre. Je vais vous le lire tout en entier, ce récit. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Lot est un cœur tourmenté. Qu'est-ce qu'il a dû voir? Qu'est-ce qu'il a dû entendre au quotidien dans ces villes de Sodome et Gomorre? On n'imagine même pas. D'ailleurs, la Bible dit que quand les anges vont arriver dans la ville, il se tient à la porte de la ville. On n'est pas bien sûr qu'il habitait là, mais c'est possible qu'il n'avait pas installé sa maison au cœur de la ville. Aujourd'hui, vous avez de grandes villes dans le monde qui sont réputées pour avoir des quartiers entiers littéralement voués à l'immoralité. De grandes villes, la Nouvelle-Orléans, Hambourg et d'autres, ce sont des quartiers entiers. Et le nom de ces quartiers est connu. Et quand certains veulent faire la fête, ils vont à Ibiza. Voilà. On sait qu'on va se réunir là et puis ça va être l'immoralité tout le temps. Tout le temps. Là, on est dans un contexte un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Cette semaine encore, un procès a fait la une. Vous en avez certainement entendu parler. Ce qu'il y a de terrible, c'est que sur toutes les inculpations, il n'y en a qu'un qui a été réellement inculpé. Ils ont tous été disculpés, blanchis, comme dit l'expression. Ils ont été blanchis et leurs avocats s'en sont donnés à cœur joie pour dire « la justice a été juste ». Terrible. Parce qu'on a fait du droit, on n'a pas fait de la morale. On a voulu les juger sur une question de moralité, il fallait les juger sur le terrain judiciaire des lois, de la légalité. Quand on entend ça, c'est renversant. Qu'est-ce que Lot a dû entendre? Qu'est-ce qu'il a dû voir? En termes de péché, on a dû atteindre des sommets, évidemment. Revenir en arrière semble totalement impossible à Lot. On voit bien d'ailleurs qu'il aura du mal à quitter la ville. D'ailleurs, il va y laisser des plumes, hein. Il va y laisser des êtres chers. Dans ces villes, malheureusement, de Sodome et Gomorre, il ne partira pas indemne. Cependant, il va s'en sortir. Fallait trouver une porte de sortie. La Bible dit que Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il saura vous délivrer de l'épreuve. Même si vous êtes tenu, même si vous êtes en tenaille devant prendre des décisions et vous êtes malmené parce que vous dites « c'est pas juste, c'est pas normal », Dieu vous délivrera. Je ne sais pas comment, mais Dieu vous délivrera parce qu'il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Lot, c'était un cœur tourmenté quand même, hein. La Bible dit qu'il tourmentait journellement son âme, son cœur. Il ne devait pas passer des nuits paisibles, hein. Il ne devait pas être très bien dans sa peau. À cause de ce qu'il voyait, mais à cause de ce qu'il avait fait. Hein. Parce qu'il en était bien là, aussi un petit peu à cause de lui. Hein. C'était ses mauvais choix, mauvaises décisions. Alors évidemment, ça ne sert à rien de l'accuser. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il a sa punition. Hein. Il en souffre assez quand même. Le fait est que la réalité, c'est qu'il ne survivra pas à mon miracle. Hein. Il ne survivra pas à cette situation-là. Tôt ou tard, il va être emporté. J'ai connu des personnes qui, après une mauvaise nouvelle, ont été frappées d'un cancer. Je ne sais pas si c'est lié, mais quand même, il y a des situations qui vous meurtrissent au-dedans de vous et ça vous tue avant l'heure. Hein. Ça vous tue avant l'heure. C'est comme ça. Le fait est que je ne vois pas trop comment il va s'en sortir. Et dans le fond, j'ai l'impression et j'ai envie de dire que, comme Lot à l'époque, et aujourd'hui, les chrétiens sont une cible de choix pour le diable. Et s'il peut en attraper quelques-uns, et s'il peut en tuer quelques-uns sur le champ de bataille, il ne va pas s'en priver. Et là, manifestement, c'est une atteinte à tout ce qui est saint et sanctifié. et puis une attaque en règle, évidemment. Il y a peu de chances qu'ils survivent à cela. Pour utiliser un langage un petit peu moderne, on pourrait presque dire que le diable a fait une belle prise de guerre avec Lot. Même pas une monnaie d'échange, c'est une prise de guerre. Voilà, il s'est laissé piéger. Il a vu que c'était un jardin arrosé jusqu'à Tsoar. C'était comme une plaine arrosée, un jardin de l'Éternel. Il n'a pas vu que derrière l'appartement témoin, il y avait la réalité, Sodome et Gomorre. Maintenant, je l'ai piégé et il partira pas de là. Il mourra en ayant une âme tourmentée. Merci Seigneur, parce que je dis que ces tourments ne peuvent pas le sortir du piège. Mais au moins, ces tourments ont été entendus. Et Dieu a entendu ces tourments, sans nul doute. Même si Dieu a entendu l'intercession d'Abraham, sans aucun doute aussi, il est évident que Dieu a entendu là aussi le cœur de cet homme. Aujourd'hui, je parlerai de conscience et je parlerai de résistance face au péché. Où en est notre conscience et notre résistance au péché aujourd'hui? Quelquefois, on va se préserver de la souillure et du péché, mais on ne va pas mener la guerre contre cela. Et on dit, chacun ses problèmes, moi je me tiens à l'écart, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je vois rien, je sais rien, ne me demandez pas des comptes, ça ne me regarde pas. Et quelquefois, ce serait peut-être bien qu'on s'engage dans cette lutte contre le péché, vous ne croyez pas? Je ne parle pas de manifestation, mais je parle d'un engagement personnel dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on est agressé tout le temps, tout le temps. On est agressé. On va être agressé par différents moyens. Ça va être au travail, ça va être dans notre vie privée, ça va être au regard de nos enfants, ça va être à tous les niveaux. Et si on avale tout, si on ne réagit pas, on ne fait pas notre travail. On ne fait pas ce pourquoi Seigneur nous a sauvés quand même. Il faut résister. Cette semaine, on était sur Nîmes et on a été faire un tour à Aigues-Mortes. On a été voir la tour de Constance, ne pas rentrer dedans. Mais vous savez que c'est à la tour de Constance que Marie Durand aurait gravé sur le sol « résister », en vieux français, « résister ». 38 ans enfermé. Vous entrez, même pas en clandestinité, mais dans l'anonymat le plus total. Vous rentrez en prison à 19 ans. Vous en sortez pour la retraite. Il n'y avait pas de retraite à l'époque. Hein. 38 ans emprisonné pour rien. Simplement pour avoir dit « je suis chrétienne et je resterai chrétienne jusqu'à la mort ». C'est terrible quand même, ce n'est pas la seule. Hein. Vous en avez tout un tas qui ont souffert de la sorte. Aujourd'hui, on ne nous met pas en prison. Hein. Peut-être parce qu'on ne le mérite pas. Peut-être parce qu'on ne le vaut pas. Hein. Peut-être parce qu'on est quand même encore en démocratie, pourvu que ça dure. Mais le fait est que le péché avance quand même. Où en est notre conscience? Où en est notre résistance au péché? Est-ce qu'on résiste encore? Ou est-ce qu'on dit, c'est pas mon affaire, ça me regarde pas, je veux pas avoir d'histoire, je veux pas avoir d'ennui? Je me souviens de quelqu'un, il y a des années de cela, à l'époque, c'était moins exacerbé qu'aujourd'hui, hein. Travailler, était fonctionnaire, et on avait décidé d'aller chanter dans la rue, pour une fête de la musique peut-être, ou quelque chose comme ça. Et le fait est que lui était venu une fois, deux fois, les années précédentes, et là, il ne voulait pas venir. On était surpris, on s'est dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Non, non, je ne viens pas. Il y a un problème, il y a quelque chose, ce n'était pas son habitude, quoi. Et il a fini par nous avouer, je ne veux pas venir parce que comme je suis fonctionnaire, je n'ai pas le droit. Je suis laïque. Je n'ai pas le droit de montrer cela dans la rue et je ne veux pas perdre mon travail. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on n'en est pas là encore. Hein. Sauf qu'il a eu peur. On lui a fait peur, il s'est fait peur tout seul, j'en sais rien. Et puis ça ne me regarde pas. Mais le fait est qu'il est passé à côté d'une belle occasion. Aujourd'hui, si on s'en tient à ce que les autres accepteraient que l'on fasse, mais on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, c'est fini, on ferme l'église, on reste entre nous, on ne fait plus d'évangélisation, on ne parle plus de Dieu autour de nous. Non, non, on n'en parle plus. Hier soir, on a retrouvé des amis que l'on n'avait pas vus, des frères et sœurs qu'on n'avait pas vus depuis des années. Et je discutais avec une mamie, 82 ans. Elle s'est convertie à 60 ans, à peu près. Et non, même plus, 65 ans peut-être. Eh bien, depuis ce jour-là, elle a eu un cœur en feu. Et elle dit, j'ai perdu 65 ans de ma vie, je ne vais pas perdre les quelques années qui me restent. Pourtant, elle était croyante à sa manière, pèlerinage, elle en a fait tant et plus. Mais quand elle a découvert l'Évangile, elle s'est engagée pour Dieu. Et elle est venue pendant des années à la colo, rendre service, etc. Bref. Et elle a 82 ans. L'autre jour, elle allait à la Réunion. Et juste à côté de l'église, il y avait une voiture garée avec deux jeunes qui étaient en train de se rouler un pétard. Une cigarette avec du hashish à l'intérieur. Voilà. Et elle passe devant, et puis elle est reprise au-dedans d'elle, elle dit « Oh, faut que j'aille leur parler quand même. » Et la mamie de 82 ans, elle revient, elle frappe à la fenêtre, alors les deux jeunes, ils la regardent, ils ouvrent la vitre comme ça, elle leur dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ça les a surpris, quoi. Ils ont dit « Bah, rien, madame. » Il dit « Si, si, vous faites quelque chose, et regarde derrière, il y avait des affaires et tout ça. » Il dit, et c'est à qui tous les meubles que vous avez derrière? On a déménagé une amie, pas très sûr que ce soit vrai. Et l'autre, il avait caché dans sa main sa cigarette qui était en train de se rouler. Et à un moment donné, elle pose sa main sur l'avant-bras du jeune qui était à la fenêtre. Et elle a une parole de connaissance. Et elle lui dit quelque chose le concernant. Et le jeune, il est surpris. Il lui dit, madame, pourquoi vous me dites ça? Comment ça se fait que vous me dites ça? Il dit, ben écoute, c'est pas moi qui te le dis, hein, c'est Dieu qui te le dit, hein, c'est parce que tu avais besoin de l'entendre. Et l'autre à côté, il tend son bras, il dit, et moi madame? Pour dire, hein, et moi madame? Alors elle lui touche le bras comme ça, et elle lui dit, texto, toi tu as une mauvaise vie, toi tu vis mal, toi tu fais des choses mal qui ne plaisent pas à Dieu. Le gars il retire son bras, il dit, oh madame, c'est vrai ce que vous dites, hein? Authentique, hein? Authentique, hein? Et elle lui dit, venez avec moi. Elle dit à ces deux jeunes, venez avec moi à l'église. Alors l'un des deux dit, madame, moi je suis croyant aussi, je suis musulman. Hein. Et elle insiste, venez avec moi à l'église, ça va vous faire du bien, vous allez entendre. Alors elle leur a donné, elle avait une petite carte, connaître-dieu.com. Elle est à la mode, hein? connaître-dieu.com. Et elle leur a donné ça et elle dit, voilà, je sais pas, mais je prie. 82 ans. Et on parle une chose, une autre. Et à un moment donné, elle me dit, et alors, qu'est-ce que vous faites en évangélisation, vous? 82 ans. Et des fois, j'ai honte de dire, on fait si peu, on fait si mal, on voudrait faire tellement. Voilà quelqu'un qui n'a pas le cœur tourmenté, hein, sinon par les âmes perdues, mais quelqu'un qui ne s'est pas embarrassé. Hein. Et dans son quartier, tout le monde la connaît. Hein. Et tout le monde l'aime. Chrétienne engagée, tout le monde l'aime. Parce qu'elle n'est pas mystique, elle est juste spirituelle. Et elle aime Dieu. Et si je vous disais le nombre de personnes qu'elle a amenées à Dieu. D'ailleurs, dans la discussion, je termine sur cet exemple parce que c'est notoire. Il y avait là également une dame qui est revenue à l'église du temps où on était dans cette église. Et j'étais passé d'abord dans sa maison voir sa maman. Sa maman lui dit, le pasteur est venu me voir. Et elle, qui connaissait les églises de 30 ans en arrière, elle dit, eh ben c'est pas trop tôt, hein. Elle dit, mais il va venir me voir après-demain, tu seras là. Ah, surtout pas, je ne veux pas le voir. Hein. Premier contact que j'ai eu avec cette dame. Finalement, un jour, on s'est vus. Finalement, elle est revenue à l'église et maintenant, elle est très engagée dans l'église. Mais la mamie se souvient que le premier jour où elle est venue dans l'église, parce qu'elle faisait ça avec tout le monde, elle va la voir, elle se présente, elle discute avec elle et elle lui dit, mais vous voulez bien me laisser votre numéro de téléphone, comme ça, de temps en temps, je vous appellerai. Et l'autre de lui dire, ah ça, jamais, sûrement pas. Et la mamie, elle rigolait, parce que ça lui a fait ni chaud ni froid. Ça ne l'a pas troublée, ça ne l'a pas vexée. Elle a l'amour des âmes. Lot avait l'amour des âmes. Il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. C'était affreux, c'était terrible. Mais Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Alors, pour l'en sortir, Dieu a utilisé l'artillerie lourde. Des anges ont été là-bas. Il a fallu le tirer par le bras, mais il s'en est sorti. Quel que soit notre état aujourd'hui, je ne sais pas où en est votre conscience, mais je vous encourage à résister. Je vous encourage à être fait de certitude, que votre cœur soit rempli de certitude. Est-ce que c'est une priorité pour vous de résister? Est-ce que vous le faites ouvertement? Est-ce que vous le faites avec zèle? Est-ce que vous le faites avec détermination? Vous pouvez répondre à ces questions. Mais ne quittez pas notre culte ce matin sans avoir fait le choix, s'engager littéralement. Et je termine avec ces deux cas aussi, très étonnants, Gédéon d'un côté, Asa de l'autre. Ils ont eu un cœur droit. Le roi Asa, vous le lirez, 2 Chroniques, chapitre 15, a fait des réformes extraordinaires dans le pays. Il a renversé les autels, il a brûlé les statuettes vouées à l'idolâtrie, il a balayé toutes ces choses-là, et il a eu un cœur dévoué à l'Éternel. Il s'est engagé à fond pour Dieu. Et il a même été, et croyez-moi que ça, c'était quand même assez rare, pour ne pas dire du jamais vu, il a enlevé à sa mère le titre, la dignité de reine, reine-mère. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle avait continué à être idolâtre. Elle avait continué à rester attachée à son idolâtrie. Et Asa, tout jeune, a certainement été voir sa mère en disant « On rase les idoles, tu enlèves ton idole aussi ?» Et sa mère lui a dit « Mon fils, je fais ce que je veux, c'est moi qui le rajoute. » Toujours est-il qu'elle ne l'a pas fait. Alors je ne sais pas, les avertissements, est-ce qu'il y en a eu ? On peut imaginer ça. Quand même, tout ce qui s'est fait à un moment donné, Asa a dit « Stop, ça j'accepte pas, c'est pas possible. Si je ne suis pas un modèle dans ma maison, comment je vais faire dehors ? Si je ne donne pas l'exemple, je ne peux pas le demander aux autres. » Il va aller jusque-là. Je ne sais pas comment ont été les relations mère-fils après. À votre avis ? Ça a dû être tendu. Hein. Ça a dû être un chouïa tendu quand même. Hein. Il lui a enlevé la dignité. Vous savez que dans l'histoire de France, il y a des reines-mères qui ont fait des sacrés dégâts. Hein. Parce que ce n'étaient pas les fils qui régnaient. Hein. C'était les reines-mères. Hein. Les régences, ça n'a pas toujours été fabuleux. Hein. Bref, il y a eu tellement de souffrance que là, le roi Asa a eu un cœur totalement intègre et droit. Il a été jusque-là. Quand Dieu a appelé le jeune Gédéon, qui était très fébrile d'ailleurs, qui n'osera pas s'engager dans la lutte et dans la bataille, Dieu va lui dire « Écoute, tu vas aller renverser l'autel de Baal qui est à ton père, tu vas abattre le pieu sacré qui est dessus, et ensuite tu bâtiras, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Il a tellement peur qu'il ne va pas le faire de jour, il va le faire de nuit. Et quand il accomplira cela et que le matin, on va se rendre compte que la statue avait été mise par terre, et qu'on avait sacrifié à Dieu sur cet autel païen, la ville est folle de rage. Et on va savoir que c'est Gédéon, le fils le fils de son père, forcément, et qu'on va aller trouver le père en disant « Maintenant, tu amènes ton fils et on le tue. » Et le père dira « Non, que Baal se défende lui-même. S'il a accompli quelque chose de mauvais contre la divinité, que ce soit Baal qui se défende, mais je vous interdis de toucher un seul cheveu de mon fils. » Il avait peur de son père l'a défendu quand même. Dieu honore celui qui l'honore. Vous en souviendrez ? C'est inversé. Dieu honore celui qui l'honore. Alors évidemment, en conclusion, je pense que il est facile de comprendre qu'il s'oppose à son père parce qu'il veut rétablir le vrai culte. On comprend que Asa, c'était tout ou rien. Il n'y avait pas de demi-mesure, parce que les demi-mesures, ça ne sert à rien, c'est totalement inefficace. Et à un moment donné, on s'engage et on s'engage à fond. Et Asa, il l'a fait. Ces hommes-là étaient spirituels, pas mystiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en général, l'engagement total frise le mysticisme chez beaucoup. Donc comme on ne veut pas être mystique, on ne s'engage pas totalement. Je crois qu'on peut s'engager totalement, spirituellement. C'est totalement possible. C'est évidemment possible. Alors, selon ce que vous dit votre cœur, parce que j'en reviens au cœur brûlant, au cœur ardent, selon ce que vous dit votre cœur, vous devez savoir où vous en êtes spirituellement ce matin. Si la parole ne vous a fait ni chaud ni froid, c'est que le cœur est un peu froid. Je ne prétends pas que l'on vive la même expérience que les deux disciples d'Emmaüs, évidemment. Mais je réalise que leur cœur a brûlé. Et quand j'entends la parole, mon cœur brûle. Et quand j'entends les avertissements de Dieu pour mon âme, mon cœur brûle. Parce que je veux que ça brûle. J'ai besoin que ça brûle. Il faut que ça brûle. Qu'en est-il de vous ? Qu'en est-il de chacun d'entre nous ? Dans votre marche avec Dieu, c'est votre cœur qui est le thermomètre, qui vous dit où vous en êtes. Alors plaise à Dieu que votre cœur soit bien vivant, plein de vie. Et plaise à Dieu que si il est passé par un moment de tourment à cause de sa droiture, parce que vous supportez pas ce que vous voyez, ce que vous entendez, que votre décision et votre engagement soient totales, que votre conscience soit réveillée, ranimée, et que votre cœur soit consumé par l'envie de servir, consumé par ce feu du service, non pas consumé par le péché, mais consumé par la sainteté, la consécration, la sanctification. C'est comme ça qu'on peut plaire à Dieu. Alors on dira de vous certainement que vous avez un cœur gros comme ça. On ne dira pas de vous, il n'a pas de cœur, hein. Ou il a un cœur de pierre. On ne dira pas que vous avez le cœur gros. On dira peut-être que vous avez un cœur d'or, certainement. Mais la vérité, c'est que vous n'aurez pas le cœur au bord des lèvres, prêt à chavirer, mais vous serez bien campé sur vos certitudes. La foi nous arme. La parole nous équipe. Nous avons tout ce qu'il faut pour être chrétiens aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens authentiques, chrétiens vivants. Que Dieu nous aide à le vivre et à l'être totalement. Amen. On se lève et on invoque Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ces moments que tu nous as donnés, merci pour cette vérité de l'Écriture qui nous rappelle que notre cœur, il peut être brûlant et que s'il n'est pas brûlant, il est en danger. Alors je veux être comme les disciples d'Emmaüs et je veux brûler au-dedans de moi en entendant ta parole, en lisant ta parole, en méditant ta parole, en étant inspiré par ta parole. Je veux que mon cœur brûle au-dedans de moi. Merci de ce que tu fais. Merci d'encourager le fragile, le faible. Merci de le rendre fort. Merci parce que c'est là ton désir et ta volonté. Merci pour des exemples comme Asa, comme Gédéon. Pour ces exemples comme Lot également, pour tant d'autres dans l'Écriture qui témoignent que c'est bien du cœur que sortent tous les trésors de la vie. Merci de ce que tu fais maintenant. À toi l'honneur et la gloire. Accompagne-nous dans ta paix. Donne-nous de vivre de ta grâce encore. Bénis la réunion tout à l'heure où l'Évangile va être prêché avec force et zèle. Glorifie ton nom encore. Que ton nom soit loué. Raccompagne et bénis chacun d'entre nous. Bénis encore ceux qui n'ont pas pu être là. Fais-leur du bien là où ils sont pour la gloire de ton nom. Amen.